il y a quelque temps, lorsque Charlotte m'a demandé si j'acceptais de tenir cette place aujourd'hui, en pareil cas, je regarde sur la Bible pour voir ma Bible, pour voir quels sont les textes qui seront sur lesquels il faudra peut-être méditer. Et il y a un texte qu'on n'a pas lu ce matin, un texte de Marc, qui relate la présentation de la tête de Jean-Baptiste sur un plateau à Jésus-Christ. J'ai fait comprendre à Charlotte que je n'étais pas très inspiré par ce texte. Elle m'a dit, trouve une tête ailleurs. L'anecdote finie, soyons sérieux. Je vais continuer sur la lancée des psaumes. Pierre y a fait allusion tout à l'heure. Nous venons de vivre une quinzaine de jours où il y avait, parmi les lectures journalières, les seules lectures journalières concernaient deux psaumes chaque jour. Alors, tiens, je vais continuer dans ce sens-là. Vous avez peut-être remarqué que dans ces psaumes, beaucoup commencent à l'inverse de certains par le fait que l'on déplore l'absence de Dieu. Par exemple, psaume 10 commence « Seigneur, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu quand la détresse est là ?» Le psaume 13, Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? Psaume 22, mon Dieu, et ça, on le sait pas, on l'a entendu par ailleurs, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin? Psaume 28, Seigneur, je t'appelle au secours. Pourquoi restes-tu insensible à mes cris? Psaume 55. Ô Dieu, entends ma prière, ne te cache pas quand je te supplie. Psaume 102. Seigneur, écoute ma prière. Pourquoi te détournes-tu de moi? Psaume 109. Seigneur, toi que je loue, ne garde pas le silence. Je t'en supplie. Et je n'ai pris que ceux qui commencent par cela, d'autres aussi, on le retrouve dans le texte. Alors, pourquoi faire état de tout cela? Simplement parce que lors de très belles prédications que j'ai entendues il y a quelque temps, j'ai ressenti une opposition entre la présence de Dieu, heureux ceux qui pleurent, et son absence. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et de me dire que par notre manque de foi, ou par la faiblesse de notre foi, Dieu nous paraît souvent bien éloigné de nous. Et pour étayer ces propos, j'ai pris un verset issu du chapitre 45, le verset 15 d'Isaïe. Tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël. Sauveur. Tu es un Dieu qui te cache. Je ne doute pas qu'il y ait ici un seul d'entre nous qui puisse rester insensible à l'écoute de ce verset. Car c'est un fait, douloureux, mais certain, que comme le soleil se cache derrière un nuage ou derrière un sommet, Dieu est pour nous souvent un Dieu caché. Nous pensons seulement, sûrement, en entendant cela, aux heures de doute, aux heures où, pour une raison ou pour une autre, la certitude chrétienne nous échappe, où nous mettons en question, avec une espèce d'âpreté, et les affirmations de la Bible, et les affirmations de la Bible, et les espérances de l'au-delà, et l'existence de Dieu elle-même. Les pourquoi s'opposent, comme par exemple l'irruption dans notre vie d'une épreuve particulièrement difficile, et on n'y trouve pas de réponse. Les bases sur lesquelles on avait bâti sa vie intérieure paraissent tout d'un coup faibles et fragiles, en tout cas loin de ce que Dieu attend de nous. On se demande, est-ce vrai? Comment est-ce possible? On a peur d'être la trop facile victime d'une illusion, et comme la prière désespérée que l'on fait monter vers le ciel n'est en général pas tout de suite exaucée, une immense détresse s'empare de nous, s'empare de ceux qui ont l'impression d'avoir tout perdu, d'avoir autour d'eux, d'avoir eu l'impression d'un monde s'écroulant autour d'eux, d'avoir vu le soleil de Dieu se cacher pour toujours. Il faut aussi, car ils sont graves et à leur manière douloureux, parler de ces moments où, sans être ébranlé, la vie profonde, la vie intérieure est faible, misérable, sans ardeur, parfois inexistante. Nous n'allons pas jusqu'à douter de Dieu, mais la pensée de Dieu ne nous fait pas vibrer. C'est l'indifférence qui règne, une indifférence morne et sans joie à l'égard du Père Céleste, et souvent aussi à l'égard de nos frères d'ici-bas, de notre prochain. Rien ne nous décrit mieux un tel état d'esprit, un tel état intérieur que l'image des basses eaux d'une rivière qui en temps normal coule avec abondance, mais que la sécheresse de l'été réduit à n'être plus qu'un mince filet d'eau. Au milieu des pierres et autres fonds d'ordinaire invisibles. Ah, les basses eaux de notre vie intérieure. Oh, les sécheresses de notre vie spirituelle. Oh, les tarissements de notre foi. Quelle épreuve que tout cela, pour nous, à plus forte raison lorsque les graves difficultés qui nous tombent dessus nous entraînent davantage encore sur le chemin du découragement. Une épreuve dont nous avons l'impression, comme pour le doute, que nous n'en sortirons pas, la réalité vivifiante et réelle de Dieu nous restant obstinément cachée. Excusez-moi. Et les heures de souffrance, les heures où la douleur nous laboure, où la peur nous torture, où la maladie d'un proche nous angoisse, où les difficultés familiales nous assaillent, les heures où nous nous sentons seuls, abandonnés, les heures où nos espoirs s'écroulent et nos lendemains plus qu'incertains, les heures où il nous semble qu'il ne nous reste plus rien parce qu'un être infiniment cher nous a quittés et nous a été repris, ou parce que déprimés, abattu, en proie à ce que l'on appelle le noir, découragé, prêt à désespérer, peut-être. Oh, comme ces heures, parfois, Dieu nous semble loin. Dieu nous semble très loin. Invinciblement, nous nous disons que s'il nous aimait vraiment, il nous épargnerait de telles souffrances. Et comme le miracle de la délivrance que nous souhaitons ne se produit pas, ou du moins pas toujours, nous avons le sentiment douloureux que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Comment enfin, dans les temps que nous vivons, ne pas parler des moments réels pour beaucoup, où la dure réalité du chômage, de cette nouvelle pauvreté dont on parle de plus en plus, de la drogue à laquelle notre jeunesse est exposée, si dangereusement, de cette crise économique grave dans laquelle nous nous enfonçons et dont nous ne voyons pas d'issue pour l'instant. Il y a en effet que la tourmente des événements secoue d'une manière positive, il en est d'autres, par contre, dont le ciel est obscurci par ses conséquences de l'évolution trop rapide de la société dans laquelle nous évoluons, qui sont écrasés par tant de difficultés et d'épreuves, qui ne parviennent pas à concilier ce déchaînement d'injustice et de souffrance avec la bonté de Dieu, et dont la foi est, sinon éteinte, du moins affaiblie, gênée par les triomphes du mal dans un monde sur lequel règne en principe un Père tout-puissant, comment condamner ceux qui sont ainsi troublés? Leurs troubles ne montrent-ils pas qu'ils prennent le mal au sérieux et qu'ils prennent Dieu aussi au sérieux? Ce contexte déjà évoqué que nous vivons et que beaucoup s'accordent à dire il n'en est qu'à ses débuts, est un lourd nuage d'orage par lequel il est normal que, pour bon nombre, le soleil de Dieu soit caché. Doute, maladie, souffrance, deuil, pauvreté, injustice. En vérité, elles sont nombreuses les occasions où la plainte exprimée au cours de notre réflexion devient notre propre plainte et où notre être intérieur, dans sa détresse, en vient lui-même à s'écrier « Ô Éternel, tu es un Dieu qui te cache. » Dès lors, pressante, urgente, la question se pose à nous de ce que nous pouvons faire, de ce que nous devons faire dans ces moments difficiles, pour ne pas perdre courage, pour essayer d'en sortir, pour nous efforcer de retrouver ce que nous avons perdu. Et notre verset d'Ésaïe nous donne à ce sujet des indications très précises. D'abord, par son existence même, il nous rappelle que nous ne sommes pas les seuls à traverser de tels moments, de telles souffrances, à passer par de tels défilés. Les hommes de la Bible, eux aussi, ont connu de ces tourments. Non pas seulement celui qui a écrit, dans une heure d'angoisse, le verset sur lequel nous réfléchissons, mais tant d'autres avec lui, des psalmistes, des prophètes. Et Job, dont tout le merveilleux poème est justement consacré au problème du Dieu caché. En dehors de la Bible aussi, dans l'histoire chrétienne, nous voyons les êtres les plus nobles, les plus hauts, les plus saints, en proie par moments à des doutes, à des sécheresses, à des souffrances sans nom. Les croyants les plus fervents ne craignent pas de dire que souvent ils traversent des périodes de froideur, même d'incrédulité, qu'ils appellent des déserts. Et notre Seigneur lui-même, Jésus, qui était pourtant le Fils de Dieu et qui vivait avec son Père dans une intimité que ne troublait aucune faute, aucune défaillance, a connu lui aussi l'immense détresse de sentir, à un moment donné, Dieu lui manquer. Mon Dieu, s'est-il écrié sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Souvent, quand le doute ou la souffrance nous tenaille, nous avons la douloureuse impression que nous sommes seuls à être aussi tourmentés et que ces épreuves montrent qu'une espèce de malédiction pèse sur nous. Eh bien non, nous ne sommes pas des hommes d'exception. Nous ne sommes pas des réprouvés et des maudits, puisque dans tant d'autres, parmi les meilleurs que le monde ait connus, puisque même notre Seigneur sont passés par là, dans ces sombres défilés, nous sommes en nombreuse et sainte compagnie. Beaucoup ont souffert des mêmes souffrances. Ils en sont sortis. Pourquoi n'en sortirions-nous pas nous-mêmes à notre tour? Mais notre verset ne donne pas seulement cet encouragement un peu mélancolique, d'autres peinent autant que toi. Il nous indique aussi deux directions que notre pensée peut prendre pour sortir du défilé, deux spectacles que nous pouvons contempler avec nos yeux de croyants pour reprendre courage et confiance. Tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Dieu d'Israël. Cette expression ne nous dit que peu de choses au premier abord. Elle nous semble même banale. Mais pour ceux de l'Ancienne Alliance, elle signifiait beaucoup. Elle évoquait toute la longue série des bienfaits par lesquels s'était affirmée, au cours des âges, la tendresse de l'Éternel à l'égard du peuple qu'il avait choisi, son peuple, Moïse, le passage de la mer Rouge, l'alliance du Sinaï, la marche dans le désert, la conquête de la terre promise, le glorieux règne de David, les prophètes à la parole enflammée, et cette protection constante, cette protection quand même, que dans les jours les plus difficiles, Israël avait trouvé auprès de son Dieu. Quand il pensait à tout cela, l'Israélite sentait son cœur se gonfler de reconnaissance et de foi. Et dans les heures les plus sombres, il ne désespérait pas, parce que l'Éternel, même momentanément caché, restait pour lui toujours le Dieu d'Israël. Dans cet ordre d'idées, ne sommes-nous pas plus privilégiés encore que les Juifs d'autrefois ? Nous qui, pour soutenir et étayer notre foi, pouvons contempler les hauts faits de Dieu, non seulement dans l'histoire d'Israël, mais aussi tout au long de l'histoire chrétienne. Jésus-Christ d'abord, qui domine de toute sa hauteur les destinées de l'univers, et puis l'influence de Jésus, son action permanente et puissante dans les hommes et dans le monde, la lumière qui émane des êtres authentiquement chrétiens, et nous en connaissons, l'héroïsme des martyrs, les réformateurs, certains le payant plus tard de leur vie, les nombreuses conversions, l'œuvre des missions, toute cette chaîne de faits réels, de faits historiques, de faits incontestables, qui attestent clairement que Dieu est à l'œuvre ici-bas. Lorsque dans l'immensité des massifs neigeux, le randonneur égaré cherche désespérément le chemin qui le ramène à son point de départ, redoutons le pire avec angoisse s'il trouve soudain sur le tapis blanc où il erre une trace de passage, puis une autre, puis encore d'autres, allant toutes dans la même direction et finissant par former une piste, un chemin, une joie l'envahit, parce que ces traces prouvent que quelqu'un est passé par là, que donc on peut passer, que donc il n'est pas perdu, et que le terme de ses efforts et la fin de ses angoisses sont en vue. Quand nous sommes angoissés, étreints par le doute et la souffrance, ou par les scandales que notre monde nous met sous les yeux, regardons dans l'histoire du monde, et aussi dans notre propre histoire, et au fait de l'Éternel. Alors, nous sentirons plus perdus, et même si pour quelque temps Dieu nous reste caché, nous croirons en lui et en sa puissance, parce que nous aurons observé, en pleine réalité de la vie du monde, la trace de ses pas. Excusez-moi. Après nous avoir dit, Dieu d'Israël, notre verset ajoute « Sauveur ». Et voilà encore une pensée singulièrement réconfortante, régénératrice dans nos heures de détresse. Quand nous ne voyons plus Dieu en face, quand il nous est caché, nous pouvons continuer à apercevoir ses reflets sur les âmes qu'il a sauvées. Le monde offre à notre regard des savants remarquables, des chefs valeureux, des hommes d'intelligence et d'autorité dans bien des domaines, et pas seulement parmi les célébrités mondialement connues, parmi aussi des personnages d'exception, simples, humbles, agissant dans l'ombre, que nous avons peut-être croisés. Mais il n'y a que Dieu qui soit le Sauveur. Il n'y a que lui qui soit capable de transformer des êtres de fond en comble, de faire des créatures déchues, des créatures neuves, de régénérer ce qui était corrompu, de purifier ce qui était impur, de produire le miracle de la nouvelle naissance. Comment continuer à douter? Comment persister à croire? Dieu absent du monde, quand dans le monde, il y a des existences qui ont été radicalement transfigurées par lui, quand soi-même, peut-être, on fait la merveilleuse expérience des délivrances qui viennent de lui. Lorsque le doute ou la souffrance ou l'angoisse troublent et envahissent notre être tout entier, pensons au sauvetage de Dieu, pensons aux péagés et aux gens de mauvaise vie relevés par Jésus, pensons aux brigands sur la croix, pensons à Calvin et à Luther, pensons à toutes ces associations qui se vouent corps et âme pour venir en aide à ceux qui appellent au secours. Pensons à ce que Dieu a fait dans les âmes et dans les peuples qui se sont ouverts à lui. Pensons à ce qu'il a fait à nous-mêmes, lorsque nous nous sommes ouverts sincèrement à lui par la prière. Oh, combien de fois nous avons ressenti sa présence, lorsque, pour des raisons qui nous sont propres, nous nous sommes tournés vers lui pour l'appeler à l'aide, pour lui demander de nous libérer, de nous sortir de telle épreuve, ou peut-être tout simplement de nous accompagner pour vivre celle-ci. Et comme le disait cette prédication que j'ai entendue il y a quelque temps, s'il est difficile de consoler ceux qui pleurent, au moins pouvons-nous attester que Dieu est là, que Dieu nous soutient et nous aide. Oui, pensons à tout cela, pensons à tout cela. Rappelons-nous tout cela. Il est possible qu'alors des questions restent encore en nous sans solution et que les pleurs nous étouffent encore et que nous continuons à être bouleversés par ton injustice, de scandale, de souffrance. Mais ces nuages ne nous feront plus nier le soleil parce que nous verrons ses rayons, ses reflets glorieux, ses reflets vainqueurs des êtres sauvés. Tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Et pour terminer, je voudrais vous lire les deux premiers versets du psaume qui était à notre lecture aujourd'hui, le psaume 116. J'aime l'Éternel, parce que l'Éternel, parce qu'il a entendu ma voix et mes supplications, il a incliné son oreille vers moi. Aussi l'invoquerai-je tous les jours de ma vie. Amen.